Laudetur Jesus Christus.
La Libye tourne peut-être une page de son histoire. Un cessez-le-feu a été signé hier après plusieurs jours de négociations à Genève. Il a pour ambition d'être immédiat et permanent. L'horizon semble se dégager à Tripoli, même si l'un des parrains du régime libyen, la Turquie, affiche son scepticisme. Nous irons à Istanbul au début de ce journal. Retour également sur ce spectaculaire rapprochement entre le Soudan et Israël. Les deux pays normalisent leurs relations diplomatiques. Un homme était particulièrement fier d'annoncer ce rapprochement. Donald Trump, le président américain. À la une de ce journal également, la volonté d'une nouvelle coalition du président congolais Félix Tshisekedi. Nous entendrons notre correspondant à Kinshasa. Et puis dans notre dossier, nous ferons l'éloge de la lenteur. Cultiver la lenteur, communément perçue parfois comme un manque de performance ou de compétence, plutôt qu'une aptitude à la contemplation. La pandémie de Covid bouleverse notre rapport au temps. Quel rapport aux autres, à la création? Nous avons posé la question à un moine de l'abbaye de Cœur Moussa au Sénégal.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, c'est peut-être une nouvelle ère qui s'ouvre pour la Libye. Un cessez-le-feu a été signé hier après 5 jours de négociations à Genève sous l'égide des Nations Unies. Il s'agit selon la formule d'un cessez-le-feu permanent avec effet immédiat trouvé entre le gouvernement d'union nationale à Tripoli et l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar qui domine l'est du pays. L'ONU a salué un tournant pour la paix en Libye, mais la Turquie, l'un des acteurs majeurs du conflit libyen qui soutient Tripoli, affiche néanmoins son scepticisme. À Istanbul, les explications de notre correspondante Anand Lauer.
À peine le cessez-le-feu en Libye était-il annoncé que certains éditorialistes de la presse pro-Erdogan félicitaient le président turc d'avoir, en soutenant militairement le gouvernement de Tripoli, rééquilibré le champ de bataille et permis in fine de pousser Khalifa Haftar à baisser les armes. Peut-être ont-ils parlé trop vite, car Recep Tayyip Erdogan s'est montré très sceptique à l'égard de ce cessez-le-feu, estimant qu'il semblait manquer de crédibilité. Le chef de l'État turc a justifié son pessimisme en expliquant que l'accord n'avait pas été conclu, je cite, au plus haut niveau, mais à un niveau moindre. Il a notamment mis en doute l'annonce du retrait sous 3 mois de tous les combattants étrangers présents sur le territoire libyen. Recep Tayyip Erdogan a cité nommément les paramilitaires de la société russe Wagner, déployés aux côtés des forces de Khalifa Haftar, sans évoquer les combattants syriens formés et envoyés par la Turquie. À l'évidence, le président turc n'ordonnera pas le retrait de Libye tant qu'il n'estimera pas que cet accord a des chances de succès. Il a toutefois dit espérer que le cessez-le-feu serait respecté. À Istanbul, Anand Lauer pour Radio Vatican.
La Grèce et la Turquie annoncent l'annulation d'exercices militaires qui étaient prévus la semaine prochaine en Méditerranée orientale. Annonce qui a été faite par le secrétaire général de l'OTAN et qui a salué un pas dans la bonne direction pour faire baisser la tension dans la région. Un geste qui peut aider à la médiation menée par l'Allemagne pour tenter de résoudre les contentieux entre Athènes et Ankara, a également précisé Jens Stoltenberg. Un autre accord spectaculaire, celui-ci, est l'œuvre des États-Unis. Il est intervenu hier, il a été annoncé hier officiellement entre le Soudan et Israël, qui ont annoncé la normalisation de leurs relations diplomatiques. Le Soudan devient ainsi le 3e pays du monde arabe à se rapprocher ainsi de l'État hébreu après les Émirats arabes unis et Bahreïn. Un rapprochement annoncé par Donald Trump depuis la Maison-Blanche. Une mesure accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. À Tel Aviv, Lucas de Villepin.
Une nouvelle ère, un formidable revirement, ce sont les premières déclarations de Benjamin Netanyahou hier soir. Un peu plus tôt, Donald Trump annonce la normalisation des relations entre Israël et le Soudan. Depuis le bureau ovale, des journalistes assistent même à une conversation téléphonique entre le président américain et les premiers ministres des deux pays. Des délégations israéliennes et soudanaises doivent se rencontrer très prochainement pour envisager une coopération dans plusieurs domaines et le ciel soudanais est d'ores et déjà ouvert aux vols commerciaux israéliens. Derrière ce rapprochement, l'influence des États-Unis. Juste avant l'annonce, Washington a d'ailleurs fait savoir son intention de retirer Khartoum de la liste des États soutenant le terrorisme. En quelques mois, le Soudan devient donc le 3e pays à normaliser ses relations avec Israël après les Émirats arabes unis et Bahreïn, une liste qui pourrait encore s'allonger. D'après la Maison-Blanche, au moins 5 autres candidats sont prêts à suivre le mouvement. Lucas de Villepin, Tel Aviv, Radio Vatican.
Et cet accord a été une fois de plus critiqué par l'autorité palestinienne qui a rappelé qu'une solution au conflit israélo-palestinien doit être un préalable à toute normalisation entre Israël et le monde arabe et non l'inverse. Les mesures de restriction contre la pandémie de Covid se multiplient, en Europe en particulier, où des couvre-feux, voire des reconfinements se mettent en place dans de nombreuses villes et régions. Depuis hier, à Rome, le couvre-feu est en vigueur de 23h jusqu'à 5h du matin. Des mesures sont identiques à Naples ou encore à Milan, dans le nord du pays. Le Pays de Galles, lui, a fait le choix d'un reconfinement d'une durée de 2 semaines. Depuis hier, plus de 3 millions d'habitants de cette province britannique sont invités à rester à la maison. Notons également les mauvais chiffres de l'Allemagne, qui a dépassé ce matin les 10 000 décès dus au Covid. Même si les mesures de restriction sont moins lourdes que dans d'autres pays, les Allemands sont invités à la plus grande prudence. Et dans ce monde marqué par la pandémie et qui bouleverse les économies et les sociétés, le cardinal Pietro Parolin invite à repenser un modèle de développement et de croissance qui place au centre la dignité humaine, la juste valeur du travail et le rôle fondamental de l'éducation à la solidarité. Le secrétaire d'État du Saint-Siège qui a envoyé hier une vidéo à l'ouverture d'une conférence internationale promue en ligne par la fondation Centesimus Annus, un message que vous pourrez retrouver sur notre site vaticannews.va. Une journée très tendue s'annonce de nouveau en Guinée ce samedi. La commission électorale doit en effet annoncer les résultats globaux provisoires ce matin, ceux de l'élection présidentielle. De nouveaux affrontements ont eu lieu hier à Conakry entre des jeunes manifestants partisans de Sélou Dalène Diallo, l'adversaire d'Alpha Condé. La commission électorale, elle, a poursuivi son travail sans tension. Deux commissaires qui la composent ont donc claqué la porte, estimant avoir constaté de graves anomalies dans la procédure de totalisation des votes. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi annonce l'ouverture de consultations entre les différents partis de la coalition au pouvoir. Dans un discours à la Nation prononcé hier, le président congolais n'a pas caché les divisions qu'il oppose avec le camp de son prédécesseur Joseph Kabila et fait part de sa volonté de créer une nouvelle coalition. À Kinshasa, Pascal Moulégua.
Sa plateforme réclamait la fin de la coalition avec les camps de Joseph Kabila, mais Félix Tshisekedi n'y va pas si vite contre ses adversaires farouches d'hier, devenus ses alliés. Pour lui, les divergences s'accumulent depuis près de 2 ans et plombent le développement du pays. Parmi ces divergences, il y a les réformes électorales, notamment la composition de la commission électorale, mais aussi des mises en place dans la diplomatie. Il a déclaré que la mise en place d'un état de droit qu'il prône, je cite, « énerve certains nostalgiques ». Solution, dès la semaine prochaine, une série de consultations des acteurs sociopolitiques va démarrer pour, dit-il, une union sacrée.
Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. À l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'excluront aucun cas de figure.
Aucune option n'est donc exclue, mais dans les camps de Joseph Kabila, aucune réaction officielle pour le moment. Dans les états-majors du FCC, nombreux sont ceux qui s'attendaient à une déclaration plus ferme, annonçant notamment la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui devrait mettre fin à la coalition. Pascal Moulégua, Kinshasa, Radio Vatican.
En France, le président Emmanuel Macron a convoqué hier un nouveau conseil de défense et de sécurité nationale, le deuxième depuis l'attentat dans lequel le professeur Samuel Paty a été décapité par un jeune terroriste islamiste. À l'issue de ce conseil, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Les précisions de Marie-Christine Bonzon.
Le gouvernement français a décidé de renforcer la protection de ses fonctionnaires. Il s'agira, selon le Premier ministre Jean Castex, de sanctionner ceux qui font pression sur les fonctionnaires par des propos ou des comportements qui mettent en danger la vie des agents publics et plus généralement la vie d'autrui. Par ailleurs, la sécurité des établissements scolaires sera renforcée, notamment avec l'instauration de rondes et de patrouilles régulières. Autre mesure, l'augmentation des effectifs de la plateforme Pharos, un organisme public qui surveille les contenus et les comportements radicalisés qui se manifestent sur l'Internet. Selon Jean Castex, cette mesure sera mise en œuvre sans délai. Parallèlement, un pôle sera créé au parquet de Paris pour centraliser les poursuites et améliorer leur efficacité. Jean Castex appelle à une réglementation beaucoup plus forte des réseaux sociaux, y compris au niveau européen. Au niveau national, le gouvernement français va créer une unité de contre-discours républicain sur les réseaux sociaux pour lutter contre le cyber-islamisme. Le gouvernement étudie de près l'expérience acquise dans ce domaine par la Grande-Bretagne et par l'Allemagne. Marie-Christine Bronzon pour Radio Vatican.
Un mot des États-Unis où se poursuit la conférence électorale. Les États-Unis où les catholiques sont invités à prier pour l'élection présidentielle. Une neuvaine de prières proposée par la conférence épiscopale qui propose aux catholiques du pays de prendre part à cette neuvaine afin de les aider à voter avec discernement et à la lumière des enseignements de l'Église. Plus d'informations sur vaticannews.va. Je vous le disais en titre, notre dossier ce matin est un éloge de la lenteur, la pandémie de coronavirus qui nous invite à repenser notre rapport au temps. Être lent, cultiver la lenteur est parfois communément perçu dans nos sociétés occidentales comme un manque de performance, voire de compétence, plutôt que une aptitude à la contemplation, à la méditation, à savoir se ressourcer pour mieux discerner, élaborer, être créatif ou efficace. Mais on l'a vu, cette pandémie de Covid, le confinement, le couvre-feu appliqué dans de nombreux pays induisent un profond changement, un passage d'un rythme souvent frénétique à la découverte du ralentissement. Par ailleurs, confronté à notre vulnérabilité, une réflexion s'est progressivement imposée sur notre définition des priorités dans notre vie, le rapport avec évidemment nos voisinages, ceux aussi avec la création. C'est ce qui se vit dans l'abbaye de Cœur Moussa au Sénégal, où le cœur de la vie monastique bat au rythme de l'Afrique, comme en témoigne ce matin frère Bernard, moine camerounais à Cœur Moussa depuis 15 ans en charge du noviciat.
Le premier rapport du temps à la vie monastique est d'abord, vous savez, nous sommes des bénédictins et Saint Benoît parle du septénaire bénédictin. Donc, c'est cette prière de la journée qui pour nous sont comme les sept piliers qui constituent le pont entre la temporalité et l'éternité. C'est cela le rôle de cette prière, c'est-à-dire de vigile accomplie. Le temps dans la vie monastique est celui de la croissance en Dieu, la croissance dans la charité avec nos frères en communauté et tout ce que nous rencontrons ici, les autres de passage. C'est aussi le rapport aux choses, les choses qui demeurent, celles qui passent. Le temps dans la vie monastique est véritablement celui d'une présence de qualité aux autres et à Dieu.
Cela implique une certaine lenteur.
Effectivement, ce temps-là, c'est un temps vraiment lent, c'est un temps de croissance. Et la croissance en Dieu, elle est lente. Et le temps de notre propre croissance en Dieu, on va dire que le temps dans la vie monastique, c'est le temps de l'épreuve.
Quel doit être le temps intérieur qui prépare à la prière, à la contemplation?
Le temps intérieur qui prépare la contemplation est une gratuité. Il s'agit de forer profondément dans mon cœur le puits, afin que jaillisse l'eau vive, afin que jaillisse l'esprit. Ça demande de la lenteur. Ça aussi, ça prend du temps.
Prendre le temps, accepter la lenteur, c'est en quelque sorte être à contre-courant de sociétés dans lesquelles la vitesse prime ou est très présente.
Oui, c'est être un peu en retrait, observer. C'est vraiment épouser le temps de la nature. Elle ne brûle pas les étapes. Donc, en obéissant à ce temps de la nature, les choses viennent toujours à leur juste valeur et à leur juste moment.
En quoi le rythme de la nature peut-il nous guider dans notre propre gestion du temps?
Le rythme de la nature est d'abord celui de la lenteur, une lenteur créatrice. La nature, pour nous ici en Afrique, elle est vraiment une mère. Je vois ici dans notre entourage du monastère l'anxiété que nous avons à attendre les pluies, par exemple. S'il ne pleut pas abondamment ici, nous ne pouvons pas vivre. Cette attente de la pluie est pour nous un enseignement. Tous les jours qui passent, on vit avec cette nature, on observe, on voit cette transformation. Ça donne l'espérance de vivre, ça donne la joie d'être en frais, la joie de prier. Et quand une culture regarde dans la nature comme dans un miroir, la lenteur devient même sa loi. L'Africain n'a pas inventé la montre, il prend son temps. Et chez nous, prendre son temps n'est pas un défaut. C'est une façon d'habiter le monde, pas en courant, mais en épousant même le rythme de la mère nature qui nous porte.
Cela permet aussi d'être plus présent à soi, d'être plus présent aux autres.
Nécessairement. Nous sommes une culture, la culture négro-africaine, une culture très familiale. Et justement, c'est dans la temporalité que se jouent nos relations. Il faut vraiment donner du temps pour la rencontre, pour la famille. Et si on regarde les grands-parents, on doit veiller sur eux. On ne les envoie pas à la maison de retraite, il n'y en a pas. Donc, le temps de la jeunesse et le temps de la vieillesse se conjuguent. Donc, une qualité de rapport aux autres dans leur durée et une qualité de rapport aux choses aussi dans la durée.
Voilà, interrogé par Hélène Détombe, frère Bernard de l'abbaye de Cœur Moussa au Sénégal était ce matin l'invité de Radio Vatican. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 13h en direct de Rome. Excellente journée, très beau week-end.